OK, si tu veux me suivre, on va aller à Genèse, chapitre 34, tout le chapitre, verset 1 à 31. Genèse, chapitre 34, verset 1 à 31. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressant ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je vous donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait une opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront point à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérisiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? » Alors, si tu veux vous asseoir. Un passage qu'on pourrait couper en plusieurs sermons, mais je trouve que c'est une histoire complète en soi. Et il y a énormément de leçons à l'intérieur de ce passage-là. J'ai intitulé le sermon de ce matin, « Le Seigneur utilise le péché pour enseigner son peuple ». On va voir qu'à l'intérieur de ce passage-là, il y a beaucoup de péchés. Mais que le Seigneur utilise toujours les péchés qui sont commis par son peuple pour les enseigner, lui enseigner des principes très importants qu'ils ont besoin d'apprendre. Alors, il y a trois choses que je vois dans le texte que le Seigneur, plus que trois, mais en tout cas, j'en vois au moins trois, la division du texte qu'on pourrait dire. Le Seigneur va utiliser le péché pour enseigner son peuple sur l'attraction du péché. L'attraction du péché, les versets 1 à 4. Autrement dit, le Seigneur va démontrer que le péché a un côté attrayant. Ça nous attire. Même comme personne qui appartient au peuple de Dieu. La deuxième leçon qu'on va regarder, c'est que le Seigneur utilise le péché pour enseigner son peuple sur l'abjection du péché. On va voir que l'abjection, ça veut dire abject, quand on dit quelque chose est abject, c'est que ça va amener les fils de Jacob à faire des gestes, des meurtres. Ils vont tuer un groupe de personnes avec les enfants, et en plus, ils vont piller ces gens-là. Il n'y avait pas d'affaire à faire ça. Alors, ça, le péché, le petit péché de Dina, de vouloir aller voir les gens du pays, va amener les péchés. Là, on voit le côté contagieux du péché. Le péché ne vient jamais seul. Un petit péché amène un plus grand péché. Et c'est des péchés extrêmement graves. Mais le Seigneur va se servir de cela pour leur enseigner des principes et pour leur enseigner surtout quelque chose. Parce que si vous lisez, là, on ne fera pas 35 cette semaine, mais au début du chapitre 35, il se produit quelque chose. Après cette expérience-là, Jacob et sa famille se débarrassent de toutes leurs affaires d'idolâtrie. Alors, qu'est-ce que ça nous amène comme leçon? C'est que le Seigneur, oui, va te faire souffrir à cause de ton péché, mais ton péché va t'apprendre quelque chose que tu ne savais pas avant. Alors, le Seigneur utilise... Il va enseigner à son peuple l'abjection du péché. Et la dernière partie, 24 à 31, je l'ai appelée pour enseigner son peuple sur l'horreur du péché. Parce que ce qu'ils font à partir du verset 24, aller jusqu'au verset 31, c'est horrible que ce qui arrive. Mais il y a une chose qu'on ne voit pas à première lecture. On ne voit pas que le péché d'une personne se répercute sur plus que la personne elle-même. Parce que Siméon et Lévi, là, si vous vous souvenez comment leur père les a bénis avant de quitter ce monde, dans Genèse 49, là, il va reprocher à ses deux fils et ça va se répercuter sur tous leurs descendants. On se rend compte jusqu'à quel point le péché est non seulement a une influence sur Siméon et Lévi qui ont été violents, mais leur descendant, Jacob leur dit, Siméon et Lévi, vous avez été violents, et il va leur reprocher des choses qui vont avoir une répercussion sur plusieurs générations à venir, sur l'ensemble de ces deux tribus d'Israël-là. À quelque part, des fois on réalise pas ça, mais quand on prend conscience de la grande image, on se rend compte à quel point le péché est grave. Alors, le principe numéro un qu'on est en train d'apprendre là-dedans, c'est que le péché est attirant. Pourquoi le péché nous attire tant? Parce qu'ils font des fausses promesses. Le péché fait toujours des promesses. Ah, si tu fais ça, tu vois, ça c'est le fun. Ce qu'on appelle, les Écritures en parlent comme étant le plaisir du péché. Il y a un certain plaisir qui est lié au péché. Si on lit, par exemple, Jacques, chapitre 1, verset 14 et 15, ça dit, verset 13 à 15, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Voyez-vous le lien? L'attirance. C'est comme un poisson. Il voit le verre. Il pense qu'il va manger un verre, lui, là. Mais il ne mange pas le verre. Il se fait pogner, comme on dit. Le péché, c'est la même chose. Ça a un côté attirant, mais quand il te met le grappin dessus, ça enfante le péché et ça nous dit là où ça nous mène le péché, en général. Ça dit, et le péché étant consommé, produit la mort. À quelque part, c'est pas une petite chose. Genèse 3, versets 6 à 8. Quand on a l'histoire de Genèse 3, c'est la chute. Ève, alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ce qui est intéressant des deux choses là-dedans, c'est de remarquer le côté visuel. Souvent, le péché, on est attiré par le côté visuel. On voit quelque chose, on le convoite, et là, le péché nous fait des promesses qu'il ne tiendra pas. Parce que c'est toujours amer. Les fruits du péché sont toujours amers. Le principe numéro 2, justement, c'est que le péché est abject. Quand quelque chose est abject, ça veut dire que c'est écœurant. Ça produit des résultats écœurants. Et amer. On sait ce que c'est quoi, amer, si vous prenez quelque chose de sucré. C'est le fun. Mais amer, c'est bleh, méchant. Le péché, il y a aventuré quelque chose de méchant. Proverbes, chapitre 5, verset 3 à 5. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, et ses pas atteignent le séjour des morts. Encore là, ça amène vers la mort. Ça dit, c'est, au début, c'est doux, mais dans le fond, c'est amer. Jérémie, chapitre 2, verset 19. Ta méchanceté te châtira, et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Le Seigneur est en train de rappeler à son peuple que quand tu pèches puis que tu t'éloignes de lui, il dit tu vas voir que c'est amer. Une personne qui abandonne son assemblée ou une personne qui s'en va dans le péché après avoir connu la lumière, tôt ou tard, elle va se rendre compte que son péché a un côté très amer. Le péché amène toujours l'amertume dans l'âme. Troisième principe, c'est que le péché mène à la mort, au désordre et au désastre. On va le voir dans le texte. Alors, Romains, chapitre 6, verset 3, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » On va regarder maintenant comment tous ces trois principes-là qu'on vient de voir, attirant, amer et mène à la mort, mène au désordre, mène au désastre, dans le texte. On commençait par les versets 1 à 4. Pour le Seigneur veut enseigner à son peuple que le péché est attrayant. Le péché attire fortement. Oui, dès le premier verset, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob. Léa, c'est sa première femme, hein, si vous vous souvenez.
Ouais.
Alors, Léa, c'est sa première femme. Il y a eu une fille, il y a eu six enfants avec elle, six mâles, et il y a aussi une femelle. Donc, il y a eu Dina comme femelle, avait enfanté à Jacob, sorti pour voir les filles du pays. C'était comme aujourd'hui, une chrétienne, si on veut faire une similarité, un parallèle, c'est comme si aujourd'hui une chrétienne, elle dirait, OK, on va aller voir ce qui se passe dans les clubs de nuit, on va aller dans le monde, on va aller regarder ce qui se passe. La vue. La Bible nous parle que la vue est un outil que le malin utilise pour nous faire tomber dans le péché. Alors, au lieu de se tenir avec des chrétiens ou des gens qui étaient de son peuple, elle a voulu aller voir ce qui se passe dans le monde. C'est à peu près l'équivalent d'aujourd'hui, quelqu'un qui est une jeune chrétienne, disons, là, qui déciderait qu'elle va aller voir ce qui se passe dans les clubs de nuit. Des fois, tu le fais, mais t'es risque et péril. Risque et péril avec ce qui se passe de nos jours dans ces milieux-là. Alors, il y a une autre chose qu'on remarque pas nécessairement par la lecture du texte, c'est que Jacob n'est pas à l'endroit où Dieu lui avait dit d'être. Quand Dieu lui avait commandé de sortir du pays, il lui avait dit de retourner dans le lieu de sa naissance. Il s'était arrêté à Sukkot pour établir des cabanes. Quand on n'est pas à l'endroit où Dieu veut qu'on soit, on est automatiquement en danger. Donc ça, c'est la première observation à faire. Parce que dans Genèse 31, Dieu lui avait dit, « L'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, je serai avec toi. » Puis dans la nouvelle édition de Genève, ça dit, « Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans le lieu de ta naissance. » Il n'était pas au lieu de sa naissance. Ça faisait de plusieurs années qu'il s'attardait à un endroit où Dieu ne lui avait pas demandé d'être là. Alors, quand tu n'es pas où ce que Dieu te demande, puis la fille, elle, peut-être qu'il y a eu un manquement au niveau parental quand la fille elle a dit « Je vais aller voir les filles du pays », peut-être qu'il aurait dû avoir un contrôle parental pour dire « Non, 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 va pas là, c'est pas une bonne chose pour toi. » Alors, on voit là-dedans, il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché intérieur de Dina, que « Ah, voilà. » Elle voit autour d'elle le monde, ça l'attire, elle va aller voir ce qui se passe. Donc, l'attirance du monde. Alors, c'était vraiment pour elle, pour Dina, une curiosité qui était malsaine et très imprudente. La preuve qui était imprudente, c'est qu'elle est allée là, puis elle s'est faite violer. Un peu comme aujourd'hui, si une chrétienne, une jeune chrétienne, elle déciderait d'aller dans les clubs de nuit, puis elle se fait mettre des drogues, du viol dans son verre. C'est à peu près l'équivalent. Fait que là, c'était très imprudent de vouloir se joindre aux filles du pays qui étaient des inconvertis. Et il ne faut pas oublier que les nations qui entouraient les Hétiens, ces nations-là étaient pourries à l'os, comme on dit. Alors, quand tu te tiens avec des païens de la pire espèce, alors son risque était très grand. Et c'était vraiment un mélange de sentiments. La vanité, un peu d'orgueil là-dedans, aller voir ce qui se passe. Hein? Oh ben moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, je vais aller voir. Risqué. Ensuite, il y avait de la convoitise. Peut-être qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de jeunes hommes dans son coin. Elle disait, si je sors, peut-être que je vais rencontrer des gars. Elle en a rencontré un, mais il ne s'est pas comporté de la manière qu'elle s'attendait. Ensuite, il y avait fort probablement de la désobéissance et de la présomption. Elle est sortie pour voir. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui nous parle des dangers que le péché nous amène par la vue. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, C'est à ça son problème. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il faut que je vous parle de 1 Jean 2, verset 15. J'étais dans mon expérience chrétienne, je ne vous dirai pas où. Il y a un chrétien à un moment donné qui m'a dit, je citais ce verset-là, puis il m'a dit, « Faut faire attention là, quand tu dis ça. Là. N'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. » Il comprenait le verset, lui, là, comme voulant dire, faut pas aimer le monde. Là. Pas ça qu'il est pas en train de dire, tu dois détester les gens qui sont autour de toi. Le monde, c'est tout ce qui se passe autour de toi, les clubs de nuit, la vie sociale des inconvertis. C'est ça, le monde. Pas, n'aimez point le monde, les gens. Lui, il comprenait ça comme, j'étais en train de dire, n'aimez pas les gens. Là, il ne voyait pas qu'il y avait contradiction dans sa compréhension du verset avec le reste des Écritures. Quand ça dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, on n'est pas en train de dire, n'aimez point les gens. N'aimez pas le monde comme système. Tout ce qui est dans le monde est contrôlé par le malin. Alors, quand on se tient trop, un chrétien qui se tient dans le monde, qu'est-ce qui arrive sur du long terme? Il devient comme eux autres. Ils pognent leur péché, ils pognent leur misère. Alors, deuxième principe qu'on voit dans le verset 2, c'est que le péché à mort, Sichem, qui est le fils est mort, il la trouve belle, Dina. Puis il a fort probablement pas essayé de la séduire, parce que lui, il a décidé que la manière de l'avoir, c'était de la violer. À cette époque-là, c'était pas probablement plus grave aux yeux de ces nations-là. Pour les Juifs, c'était énorme. C'était la faute de la faute, comme on dit, de faire ça. Ça dit dans le verset 2, « Et Sichem, fils de Hémor, le vient, prince du pays. » Voyez-vous, elle a rencontré un gars important, un prince, un fils de roi. Il la vit. Voyez-vous encore là, le péché rentre par où?
Par la vue.
Il la vit et l'enleva. Non seulement il l'a violée, mais il l'a enlevée. Coucha avec elle et lui fit violence. Autrement dit, la fille, qui était une juive, a été violée par un inconverti, un prince des inconvertis. Alors, est-ce que cette histoire-là ne nous rappelle pas une autre histoire qu'on a lue dans les Écritures? Celui d'Amnon, qui était le fils de David, qui a violé Tamar, sa demi-sœur, et qui était la fille de son frère Absalom. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Absalom, il a tué Amnon pour avoir couché avec sa sœur. À cette époque-là, là, on ne riait pas avec ce genre de péché-là. Et son frère était tellement offensé que son frère a violé sa fille, sa demi-sœur, autrement dit, qui l'a tué. On riait pas, là. Souvent, on entend parler, des fois, les Arabes ont encore cette mentalité-là, que si tu déshonores une femme, c'est extrêmement grave. Ils ont raison, probablement. Peut-être les moyens qu'ils utilisent sont discutables, mais en tout cas, c'était grave à cette époque-là. Il y a une chose bizarre qui se passe au verset 3 et 4. Normalement, quand quelqu'un viole une femme, après ça, il la quitte puis il la jette comme une vieille guenille. Ça a été le cas d'Amnon. Après qu'il a eu couché avec Tamar a dit, « Renvoie-moi pas, tu me fais un plus gros déshonneur en me renvoyant. » Et là, il ne voulait plus rien. Ça. Autant il l'avait aimé avant, au point d'en être malade, les Écritures disent, qu'après, il l'a rejeté comme un vieux torchon. Et pour... quand Tamar est sortie, puis elle est allée raconter ça à son frère Absalom. Absalom, il a dit, toi, tu ne perds rien pour attendre. Ça a pris un peu de temps, là, mais éventuellement, il y a eu une occasion, puis il l'a tué, quelque part. Le fait qu'il l'ait violé, puis qu'après, il est tombé en amour avec, ça, c'est exceptionnel. Pourquoi le Seigneur a permis que... Sichem ne dise pas après, ben là, je ne veux rien savoir, je t'ai eu, salut. Il est tombé en amour avec. Et là, il a demandé à son père, va voir les autorités juives, puis demande-leur de me la donner comme femme. Pensez-vous qu'il demandait ça à la bonne personne? Je pense pas, moi. Et son, dans versets 3 et 4, ça dit, « Son âme s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il aima la jeune fille, ce qui n'était pas normal. » Pourquoi Dieu permet ça? Il y avait des raisons en arrière de tout ça. Et parla au cœur de la jeune fille. Là, la Bible ne nous dit pas comment Dina a reçu ça. Il a parlé au cœur de la jeune fille. Autrement dit, il est en train de lui dire, je suis en amour avec toi, je veux te marier. Je vais m'organiser pour qu'on puisse se marier. Mais les Écritures ne nous disent pas comment elle a réagi. Les Écritures restent silencieuses sur ce côté-là. Et Sichem parla à Hémor, son père. Donc, s'il était un prince, il a parlé au roi. Il était le premier de cette nation-là. Puis là, il voulait que avoir la fille, puis il dit à son père, va voir, à cette époque-là, se faisait avec les pères. Hein. C'était le père qui fait garder la main de sa fille. Il dit à son père, va voir Jacob, là, puis demande-lui la main de Dina, pas moi. Et ayant son père, il lui dit, donne-moi cette jeune fille pour femme. On peut dire qu'une certaine noblesse, au moins, dans le fait que non seulement il l'a violée, mais après, il ne voulait pas tout simplement la laisser avec ce péché-là sur la conscience. Au moins, il y avait une idée d'amender un petit peu son comportement, mais il se rendait pas compte de l'effet que c'était pour faire sur Jacob et surtout sur ses enfants, sur deux de ses fils qui, eux, ils ont dit, on va t'en rendre ton cas, toi. Alors, le péché, des fois, il y a un côté inattendu. Il y a un côté imprévisible. N'est-ce pas que des fois, c'est de même? On pense que le péché va nous donner certains résultats, puis ça n'arrive pas tout à fait comme on avait prévu. Alors, le côté inattendu, c'est que son geste l'a amené à aimer Dina. Alors, bien entendu, il y avait quelque chose de... Il se nourrissait d'illusions, en pensant que je vais violer une fille, puis tout ce que j'ai à faire après, c'est d'aller voir le père et dire, ben ok, moi je l'aime, je vais la marier. Il s'est rendu compte que l'offense était beaucoup plus profonde et irréparable que lui voulait bien. Alors, les versets 5 à 23, on va regarder le côté amer du péché. Alors, on voit que le péché est amer sur plusieurs facettes. Il est amer pour l'individu, il est amer pour la famille, puis il est amer même pour la nation, les deux nations. Voyez-vous, le péché de Dina, qui était tout simplement, on va aller voir ce qui se passe dans le monde, va avoir une conséquence très, très grande sur sa propre vie à elle, sur la vie du prince, parce que lui, il était assassiné, son père aussi, sur toute la nation de ces gens-là, et sur toute la nation aussi du peuple juif, qui prenait un très, très, très grand risque en ayant exterminé une nation qui aurait pu se reformer ensemble, essayer de vouloir les attaquer. C'est la grâce de Dieu que ça ne tourne pas à leur désavantage. N'oubliez pas une chose, c'est que Jacob était dans la lignée messianique. Il était prévu par Dieu, par l'alliance, que éventuellement de père en fils, elle arriverait au Messie. En mettant la nation juive en péril, comme il le dit à la fin, là, il dit à ses deux fils, vous avez mis la nation complète en péril, vous avez risqué qu'on soit anéanti à cause de votre péché. Quelle manière ils ont répondu? Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Ils n'ont pas vraiment saisi toute l'ampleur du mal qu'ils ont fait. Pas vraiment. Alors, versets 13 à 17, versets, c'est-à-dire 5 à 7. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Imaginez-vous le père de famille à cette époque-là, qu'il y a quelqu'un qui vient le voir, puis il dit, je voudrais que tu remaries ma fille, parce que mon fils il a violé ta fille, je voudrais que tu m'accordes sa main. On imagine Jacob. Imaginez-vous votre propre enfant. Ceux qui ont des filles, là, que quelqu'un vous arriverait chez vous et dirait le nom de votre fille, là, a été violée. Et après ça, il dirait, peux-tu me l'accorder comme femme? Pas sûr qu'il serait bien reçu. Hein? Jacob était probablement à terre. Ça se dit, mais ses fils étaient au champ avec son bétail et Jacob se tue jusqu'à leur retour. Autrement dit, il est resté avec sa douleur, puis il est resté avec, puis il a dit, je vais attendre que mes fils arrivent. Verset 6, cependant, Hémor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler, et les fils de Jacob revinrent des champs. Dès qu'ils apprirent la chose, ces hommes furent affligés et fort irrités de l'infamie. Pas un mot, pas un petit mot, une infamie. Hein? L'infamie que Sichem avait commise en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Autrement dit, Jacob, il a eu la nouvelle, il était amorti, il a attendu que ses fils arrivent. Quand ses fils arrivent, il les a partagé la nouvelle. Et quand on dit des plusieurs mots qui sont utilisés, là, affligé, l'affliction, hein? T'es-tu sérieux? Il a violé notre sœur. Et là, après ça, ça dit une grande colère. Ça a dû se répandre dans toute la tribu. Une grande colère. Et là, ils se rendaient compte que l'infamie, pour eux, pour les Juifs, c'était une chose extrêmement grave qui s'était passée. C'était pas quelque chose qui pouvait se arranger en « viens demander à ma fille, viens demander sa main, je l'aime. » Alors, le péché de Dina et celui de Sichem, bien entendu, va entraîner des graves conséquences à la fois individuelles pour les deux individus, les pères de famille et les deux tribus. Et non seulement à cette époque-là, là, mais quand on lit dans Genèse 49, la bénédiction, quand il était le temps de bénir les enfants, quand il est arrivé à Siméon et Lévi, c'était pas une bénédiction. Là. Il leur a dit, votre épée, là, c'était grave ce que vous avez. Il leur rappelle, puis il leur dit, les fils de Siméon et Lévi vont porter ce péché-là pour... On se rend compte que, dans le fond, le péché, ça a non seulement un effet immédiat dans nos vies, mais ça peut avoir un effet qui se répercute dans la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Un effet national durable dans le temps. Quelque part, on se rend compte à quel point c'est grave. Alors, le petit péché, qu'on pourrait appeler le petit péché de Dina, d'aller voir ce qui se passe dans le monde. Voyez-vous? T'es en train de faire une grosse, grosse boule de neige. Très, très grosse. Alors, on peut imaginer la douleur de Jacob. On peut imaginer aussi l'indignation des frères de Dina. Et on peut aussi concevoir l'explosion des sentiments négatifs qui sortent de tout ça. Imaginez-vous, ils ont dû, pour en avoir une secousse, à discuter ensemble, dire... « Ah ben le salaud, ah ben les cœurs, ah ben si, ah ben ça, ça devait être épouvantable. » Là, il y avait juste un désir dans la tête, c'est la vengeance. On va se venger. Et ils l'ont fait très habilement, très hypocritement, en leur faisant croire que s'ils se faisaient circoncire, ils étaient pour vivre ensemble, partager leurs femmes, et partager leurs ressources, et partager toutes leurs richesses. Et on a vu ce qui est arrivé. C'est pas de même que ça a tourné. Le péché, versets 8 à 12, est amer parce qu'il blesse, il insulte et il abuse. Quand ça dit « Hémor leur parla » dans le verset 8 en disant « L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la lui, je vous prie, pour femme. Et alliez-vous avec nous. » Et nous vous donnerons vos filles, vous prendrez nos filles pour vous, et vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Demeurez-y, trafiquez, acquérez les propriétés. Et Sichem dit au père et aux frères de la jeune fille, que je trouve grâce à vos yeux, et je vous donnerai ce que vous me dites, imposez-moi un grand douaire, une dot, un grand douaire et de grands présents, et je les donnerai comme vous me direz, mais donnez-moi. La fille, pour femme. Il y avait plusieurs péchés là-dedans. Il y avait un péché blessant. De croire que tu peux acheter tu as violé une fille, puis après ça, tu vas voir, puis tu dis, demande-moi de l'argent, moi t'en donner. Ça se rapporte pas avec de l'argent, ça. Le péché blesse la famille de Jacob parce que Hamor et Sichem pensent que Dina peut être traitée comme de la marchandise qu'on peut acheter ou négocier. Le péché blesse, le péché insulte aussi parce que l'infamie est même utilisée pour faire du commerce. Si on s'entend, là, vous allez pouvoir trafiquer dans le pays, on va pouvoir faire du commerce entre les deux nations. Voyez-vous, le péché est en train de se transformer en avantage pour eux. Et après ça, le péché abuse parce que Sichem croit qu'une somme importante d'argent, de biens ou de présents, il dit « Impose-moi un douaire, demande-moi une grosse dot, je vais la payer. » Il est prêt à donner de l'argent, il est riche, son père est un roi. Il est prêt à donner une somme d'argent pour acheter Dina. Dans le fond, c'est quasiment... Fait que pour les Juifs, se faire poser ça comme question. Je vais acheter ta fille. Si quelqu'un irait vous voir, vous avez des enfants, ceux qui ont des filles, puis qu'un gars viendrait vous voir, puis dirait, je vais acheter ta fille, tu dirais, hey, réveille le bonhomme, là. Une fille, ça s'achète pas. Le péché est amer dans le verset 13 à 17, parce que ça l'amène à un autre péché. Oui, le fait d'entraînement du péché. Le péché est amer à cause de ses conséquences. Qu'est-ce que ça amène? Plusieurs choses, au moins trois. Premièrement, l'hypocrisie. Ils ont fait semblant de négocier. Ouais, mais nous autres, on peut pas t'accorder la main de notre fille si vous êtes pas circoncis, parce que pour nous autres, marier un incirconcis, c'est quelque chose qui se fait pas. Fait que là, ils ont commencé à être hypocrites, faire semblant qu'ils marchaient dans leur combine. Ils marchaient pas du tout. Autre chose, la profanation. La circoncision, pour les Juifs, c'était quelque chose de sacré. C'est pas quelque chose que tu dis à un païen de se faire faire. Quand les gens se faisaient circoncire, c'est parce qu'ils comprenaient le sens spirituel de la circoncision. Dire à des gens d'une autre nation qui comprennent rien à tout ça, vous avez juste à vous faire circoncire, puis on va pouvoir avoir marier nos enfants entre nous autres. C'était de prendre quelque chose de sacré, puis de le profaner. C'est ça qui se passait. Donc la profanation et la cruauté, parce que la cruauté, ça a été le résultat final de tout ça, parce qu'ils ont dit, fait que là, eux autres, ils ont été séduits par l'idée, Sichem et Hamor. Et Sichem, vu qu'il aimait beaucoup Dina, il a dit, il était influent dans son milieu, il est allé voir son peuple, il a dit, « OK, faisons-nous circoncire. » Lui, il voulait avoir la fille, puis en même temps, il voulait avoir les résultats des biens. Tu sais, tout le côté bénéfice de tout ça. Il a convaincu le peuple de se faire circoncire. Et à l'époque, les circoncisions, ça se faisait pas à celle d'urgence, là. Ça se faisait avec des pierres et des affaires de même. Ben, j'imagine, Fait que là, t'es souffrant. Et les deux fils, Siméon et Lévi, ont dit, lève-là notre chance. Ils sont faibles, ils ne sont pas capables de se défendre. Sortons nos épées, zigouillons tout ce monde-là. Et en plus, volons tout leur bien. Hey, le péché, voyez-vous l'effet d'entraînement? Le petit péché qui mène au plus gros, puis le plus gros qui mène au plus gros, puis le plus gros qui mène encore au plus gros. Alors, les péchés là-dedans, les versets nous montrent une cascade de péchés. On sait ce que c'est, une cascade, dis-tu? Encore un autre. Les uns à la suite des autres. Mensonge, premièrement, en leur disant que c'était possible pour une nation, en se faisant circoncire, qu'on puisse avoir une entente. Ils savaient très bien que c'était pas vrai, là. Ensuite, l'hypocrisie, faire semblant. Ensuite, la profanation. La profanation, c'est vraiment prendre une chose sacrée qui était la circoncision et de dire qu'on pouvait le faire. Et la fausse alliance. Quand tu prends une alliance, là, on a lu une alliance. Une alliance, c'est ta parole. Ta parole, il y a eu une époque où la parole d'un homme, c'était comme un contrat. Les vieux Québécois de là, 50, 75 ans, 100 ans, quand une personne disait, ce terrain-là, tu l'as vu, ils s'entendaient entre eux autres, tu disais, vendu. Il y, Il revenait pas sur leurs paroles. Juste dans ce temps-là, une parole, c'était aussi sacré qu'un véritable contrat devant notaire. Alors, il avait pris un engagement, publiquement, devant cette nation-là, de s'entendre avec eux autres devant certaines conditions. Ils n'ont pas respecté leurs paroles. La suite, si on analyserait ça en profondeur, ce texte-là, c'est littéralement bourré de péché. Et si on ne voit pas le lien qu'il y a entre un petit péché et l'entraînement, l'effet d'entraînement, on manque le bateau. Parce que ça, la leçon que le Seigneur veut nous enseigner à nous aujourd'hui, là, c'est que le plus petit péché, lorsqu'il est commis dans la désobéissance à la volonté connue de Dieu, a toujours des conséquences beaucoup plus graves que ça a l'air à première vue. Si on lit le texte et on ne comprend pas ça, on n'a pas compris. Le texte, le Seigneur ne nous raconte pas juste une histoire, là. Oui, une histoire. Mais il y a bien plus qu'une histoire en arrêt de ça. Il y a des principes moraux. Le Seigneur veut nous enseigner des choses. Il voulait nous enseigner des choses à eux. Mais encore aujourd'hui, par le même texte, il veut nous enseigner des choses à nous, aujourd'hui. Si on lit ce texte-là, puis on ne retient pas aucune leçon morale de ce que le Seigneur veut nous enseigner, on lit ça, puis on comprend rien. On comprend l'histoire, on comprend qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé, mais on comprend pas toute écriture que le Seigneur nous a donnée, ça nous dit dans le Nouveau Testament, nous a été donnée pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. C'est ça que la Bible nous dit dans deux passages du Nouveau Testament. Pour notre instruction, si on lit ça puis il n'y a pas d'instruction morale pour nous, on manque le bateau. Pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Il y a des choses qui se passent là-dedans que le Seigneur... Autrement dit, là, si on lit le chapitre 35 et suivant, là, il n'y en a pas eu de conséquences nationales pour Israël. Selon vous, ça dépend de quoi, ça? La grâce de Dieu! Ça aurait pu avoir pour effet la destruction totale du peuple d'Israël. Péché de Dina. Le petit péché de Dina, là, il aurait pu avoir comme conséquence la destruction totale. Pourquoi Dieu ne l'a pas détruit, Israël? Pourquoi Dieu n'a pas permis que les nations environnantes se réunissent ensemble et veulent se vouloir se venger et les détruire? C'était la grâce. La grâce à cause de sa promesse de l'Alliance qui enverrait quelqu'un, le Messie, éventuellement. S'il aurait éliminé la nation d'Israël, il n'y aurait pas eu de Jésus qui aurait venu éventuellement. Alors, il faut voir là-dedans la grâce de Dieu. Malgré les péchés, Dieu a miséricorde. Et il va s'en servir, on va voir au début du chapitre 35, que, maintenant, quand il a eu fini cette histoire-là, c'est drôle, Jacob, la première chose qu'il a faite, il a dit à la famille, tout ce qu'on a là, comme objet d'idolâtrie, là, détruisons tout ça. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux chapitres? Bien sûr, c'est cette histoire-là qui s'était passée qui a amené Jacob et toute sa famille à réaliser que toute idolâtrie se devait d'être enlevée de leur vie. Et à partir de ce moment-là, Jacob et la famille c'est comme été une nouvelle étape dans leur vie spirituelle. Donc Dieu s'était servi du péché et de leur montrer le côté amer de tout ça, le côté attirant, le côté amer, et le côté terrible de tout ça, là, tout ce qui a résulté de ça. Là. Et on n'a pas fini de regarder tout ça. On va faire juste le dernier point. Là. Péché est amer parce qu'il est aggravé par le côté religieux et la convoitise. Verset 18 à 23, ça dit, « Leur discours pleure à Hémor et à Sichem, et le fils de Hémor, et le jeune homme ne différa point de faire la chose, car la fille de Jacob lui plaisait. Or, il était le plus considéré de toute la maison de son père. Hémor et Sichem, son fils, vinrent donc à la porte de leur ville et parlèrent aux gens de leur ville en disant, « Ces gens-ci sont paisibles à notre égard, qu'ils habitent au pays et qu'ils y trafiquent. Et voici, le pays est assez étendu pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Mais ils ne consentiront point à habiter avec nous pour n'être qu'un seul peuple, que si tout mâle parmi nous est circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leur bétail et leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous? Accordons-leur seulement cela et qu'ils demeurent avec nous. » Le peuple d'Israël était lié au Seigneur par le signe de la circoncision, qui était un signe sacré. De vouloir partager ça avec des nations qui n'en comprenaient pas le sens, c'était pour eux autres une profanation. Alors, c'était... Seule la convoitise de Hémor et de Sichem leur faisait avaler ce mensonge-là. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été un petit peu naïfs dedans, de croire qu'on a juste à se faire circoncis, puis le problème va être arrangé. À quelque part, il y avait une grande naïveté là-dessus. Alors, on va arrêter là aujourd'hui, parce qu'on en a pour un autre sermon, c'est assez long. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui.